franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jean.
Bonjour.
La presse qui revient largement ce matin sur le choix de Manuel Valls de voter Macron et sur les conséquences de ce choix.
Double sémantique convoquée en une de vos quotidiens ce matin. Effectivement, la première tourne autour de la trahison et l'autre est carrément funéraire. Monsieur déloyal, clame Libération. Le ton est donné, cinglant. Et c'est celui qu'on retrouve dans l'éditorial de Laurent Geoffrin, titré « Valls, le pivot devenu girouette ». Il était l'apôtre d'une gauche qui pense le réel, il devient l'homme d'une gauche qui prend le vent, écrit-il. Ce que Geoffrin reproche à l'ancien candidat à la primaire, c'est évidemment d'avoir été parjure, c'est un cas d'école, dit-il, un manuel, avec une majuscule comme le prénom, de reniement, le symbole de cette campagne où la première victime est le respect de la parole donnée. Manuel Valls, désormais catalogué comme le Ganelon ou le Yago de cette période électorale, renchérit Bruno Mèche dans la montagne, qui, pour donner la mesure de la traîtrise de l'ancien Premier ministre, convoque donc carrément les traîtres de la chanson de Roland et d'Othello. Jean-Jérôme Bertolus raconte dans l'Opinion les coulisses de la décision de Manuel Valls. Après avoir rencontré François Hollande vendredi, il a pris sa décision le week-end dernier, il s'invite chez Bourdin pour le mercredi, et hier, c'est donc très décontracté, écrit le journaliste, que l'ancien Premier ministre arrive en studio. Mais quelques minutes plus tard, il met le feu à sa famille politique. Les gauches ne sont plus seulement irréconciliables, elles ont basculé dans le schisme et l'affrontement.
Et c'est donc l'oraison funèbre du PS qui est prononcée.
L'adieu au PS, dit aujourd'hui en France le Parisien. Le Parti Socialiste, celui d'Épinay, est mort hier, sans panache, rongé par les rivalités idéologiques et personnelles. Emmanuel Valls a planté le dernier clou sur son cercueil, écrit Jean-Marie Montali. La fin d'un parti, s'interroge également La Croix. Manuel Valls a sans doute précipité ce qu'il avait lui-même théorisé. Les deux gauches ne se réconcilieront plus. Épinay a vécu, conclut Cécile Cornudet dans Les Échos. CJ, le PS de Mitterrand donc, mais à qui la faute? Eh bien Manuel Valls est largement désigné coupable, vous l'aurez compris ce matin, coupable de tous les calculs, celui de vouloir compter dans une éventuelle future majorité législative, des petits dessins largement relayés par les soutiens de Benoît Hamon, de Martine Aubry à Arnaud Montebourg, qui a dénoncé un homme sans honneur. Et rares sont ceux dans la presse ce matin à lui trouver des circonstances atténuantes. Un petit peu Guillaume Tabar dans le Figaro. Certes, écrit l'éditorialiste, Valls est parjure, mais il n'est que le révélateur de la crise mortelle dans laquelle le PS est plongé, pas le facteur déclenchant. Non, c'est l'effondrement de la candidature Hamon qui provoque le sauf-qui-peut à gauche vers Emmanuel Macron. Le PS paie aujourd'hui une double crise, en réalité, écrit Tabar, idéologique et politique. Idéologique parce qu'il n'a jamais arbitré entre sa culture de gouvernement et sa culture de la contestation. Quant à la crise politique, elle est le fruit du quinquennat de François Hollande et de sa pratique du pouvoir. Valls coupable donc, Hamon coupable, Hollande coupable. Eh bien tiens, la presse aussi, figurez-vous. C'est le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, fort démuni face à l'éparpillement façon puzzle de son parti, qui hier a trouvé l'astuce, nous raconte Sophie de Ravinel, toujours dans le Figaro. Lassé des affaires Fillon et désintéressé des affaires de Marine Le Pen, la presse aurait décidé de feuilletonner sur le Parti Socialiste, a-t-il dénoncé dans un communiqué. Eh bien, bien sûr, la mort du PS, c'est nous.
Mais oui.
L'argument de Manuel Valls, qui a justifié hier son choix de raison par le souci de ne vouloir prendre aucun risque, a-t-il dit, pour la République, avec la victoire envisageable du Front National, cet argumentaire est assez peu repris ce matin, tout juste notifié dans l'article de Furbery dans Les Échos. Il faut dire que l'intéressé se prête sans complexe et sans tabou à toutes les transgressions. Dans l'Obs, ce matin, il confie à Serge Raffy, il faut assumer la responsabilité d'aider le prochain président de l'arc républicain, Macron bien sûr, avant le premier tour, mais même si François Fillon sortait vainqueur de ce combat, dit Manuel Valls, il faudrait aussi chercher des compromis avec la droite parlementaire, il faut en finir avec les dogmes. Manuel Valls, qui prend cher, donc, comme on dit familièrement, pour ce qu'il présente, lui, comme une nécessaire recomposition. Et pour terminer, un petit clin d'œil, celui du dessinateur Willem, dans Libération, qui fait dire à Marion Maréchal Le Pen, méchamment taclée par sa candidate de tente il y a quelques jours, « Si c'est comme ça, je vais chez Macron ».
Campagne présidentielle encore, Hélène, avec des données c'est très intéressant, des données sur les fausses informations qui polluent cette campagne.
Les candidats sont-ils égaux face aux fausses informations? Y a-t-il des thèmes qui suscitent plus d'intox que d'autres? Se sont demandé les décodeurs du Monde, qui ont donc recensé 15 fausses informations qui ont émergé depuis le 1er février, qui ont été partagées au moins 5000 fois sur Facebook et qui ont fait l'objet d'un démenti catégorique qui invalide la thèse initiale. Leur résultat? Eh bien, 4 grands thèmes écrasent les autres, nous dit Adrien Sénéca. L'immigration, toujours présentée comme un danger. L'insécurité, qui exploserait en France. Les médias, qui cacheraient évidemment la vérité. Et enfin, Emmanuel Macron, 200 000 partages à lui seul de rumeurs propagées sur son compte, de sa volonté d'instaurer une taxe pour tous les propriétaires, ce qui est faux, à sa campagne qui serait supposément financée à 30% par l'Arabie Saoudite, faux également. Les décodeurs ont pisté ceux qui relaient ces fausses informations, les sites et les pages Facebook des sites d'extrême droite, mais aussi des comptes de militants pas directement affiliés à des mouvements politiques. Certains sont facilement identifiables, comme SOS Racisme Anti-Blanc. Bon, là, on voit bien d'où il parle, comme on dit. Et d'autres sont plus trompeurs, comme le site, par exemple, Ma Revue de Presse, rien à voir avec la nôtre, promis, qui parviennent à générer plusieurs dizaines de milliers de clics et de partages. Les militants des candidats génèrent par ailleurs à eux seuls près de 20% du trafic de ces faux. Un quasi-inconnu à lui seul peut réunir plus de 30 000 partages sur un post Facebook mensonger et non sourcé. C'est donc un panorama précis, chiffré de ces fausses informations qui circulent.
On termine avec justement une fausse information qui a pourtant eu la vie longue.
C'est un séjour balnéaire qui alimente la chronique politique depuis 40 ans, raconte Sébastien Le Foll sur le site du Point. On est en juin 76, le président de la République, Giscard d'Estaing, confie son premier ministre, Jacques Chirac, et son épouse au fort de Brégançon pour le week-end de la Pentecôte. 2 mois plus tard, Chirac démissionne et dans ses mémoires, il raconte que ce séjour n'y est pas pour rien. Il dit avoir été humilié par Giscard, qui a joué au monarque avec lui, se réservant un fauteuil présidentiel, évidemment, quand lui-même et sa femme n'avaient droit qu'à de simples chaises. Il a même invité à dîner son moniteur.
Le fameux moniteur de ski.
Et bien, 40 ans après ces jours, Valéry Giscard d'Estaing a décidé de ne pas laisser le dernier mot à son rival éternel. Il vient d'exhumer un document inédit, un petit film tourné par l'un de ses proches lors de ce fameux week-end. On y voit les Giscard et les Chirac attablés en terrasse. Tous assis, figurez-vous, sur des chaises identiques. Pas de fauteuil, dans une atmosphère qui a l'air plutôt sympa. Ces images inédites seront diffusées dans un documentaire sur France 3 lundi soir. 40 ans pour tordre le cou à une rumeur, sans Facebook, ni like, ni partage, juste donc avec un petit film Super 8, opportunément sorti là, maintenant, pour nourrir encore et encore la chronique d'une détestation qui aura structuré la droite française pendant si longtemps. Bon, il se peut qu'on soit quand même passé à autre chose.
Mais maintenant, vous pensez vraiment que ces images démentent complètement les relations glaciales entre...
La vidéo qu'on peut voir effectivement sur le site du Point est quand même assez parlante. Ça a l'air très très cool. Effectivement, il n'y a pas de fauteuil.
Bon, très bien. Merci.
On n'a pas le dîner avec le moniteur de ski.
Merci.
C'est ça qui manque.
Ouais, on va essayer d'éclaircir tout ça dans les jours à venir. Merci Hélène Jouan pour la revue de presse.